Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, tu sais, je parlais avec un mec qui a fait des stages de clown et qui disait, en fait, on trouve son clown en 7-8 ans. Et je dis, ah, je comprends pourquoi aussi en stand-up on met du temps. C'est ça, le clown. C'est le fait qu'on n'est plus en train de se regarder jouer et qu'on laisse les gens nous regarder tels qu'ils ont envie de nous regarder. Et d'ailleurs, je le vois dans les photos, je fais, ah oui, effectivement, on prend rien à foutre de ce que. Si ouais, je suis pas en train de faire la belle gosse.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
On va entendre le quartier des fois.
C'est pas grave.
On va entendre le quartier. Ouais, bah,
le quartier vivant.
Dire, ouais, le quartier est très vivant.
tu vis dans le 18e enfin.
Je vis dans le 18e, ouais. Quand je suis à Paris, je suis dans le 18, ouais.
Quartier hautement vivant pour les gens qui ne connaissent pas Paris.
Ah bah ça.
C'est le quartier qui bouge, quoi.
Ça bouge, ça crie, ça bouge, ça vit. Ça négocie dans la rue.
On est en train de parler d'argent.
Et ça boit aussi beaucoup. C'est pour ça que ça crie d'ailleurs. On va pas se mentir, c'est beaucoup d'alcool. Là, clairement, dans mon rue, c'est l'alcool.
Alors qu'il n'est que vendredi après-midi.
Ah oui.
Mais bon.
Bah, ça a commencé ce matin.
Il n'y a pas d'heure.
Enfin, ça a commencé il y a bien longtemps dans leur vie. Mais... ouais, il n'y a pas d'heure là.
On était en train de parler d'argent.
On était en train de parler d'argent, ouais.
Ça m'a saoulé parce qu'on était en train de pas enregistrer. Tu sais.
Ouais.
Il y a vraiment le piège.
Et qu'est-ce qu'on disait sur l'argent?
Tu me disais que toi, de ton côté, t'as tendance à t'appauvrir.
Oui, ouais, j'ai peur de ce que je peux devenir avec l'argent.
Ouais.
Tu vois, parce que j'ai vu des gens changer avec l'argent. j'ai vu des copains, des copines et tout. J'ai des exemples d'avant mon métier, de pendant.
Tu veux dire des gens dans le showbiz
tout le temps, même avant, même au-delà du showbiz, quoi. Au-delà du showbiz.
Des gens qui ont gagné de l'argent autour de toi et qui ont changé.
Ouais, ou qui cherchent à en avoir et qui changent juste alors qu'ils ont même pas encore. Tu vois, on a toujours les yeux, les globuleux d'un argent, ce que ça peut faire aux gens, quoi.
Mais en fait, ça pour moi, ça vient aussi parce que les gens n'ont pas travaillé sur leur rapport à l'argent avant. Mmh. C'est-à-dire que de ce fait-là, tu viens foutre sur l'argent plein de projections.
Il y a plein de choses sur lesquelles les gens n'ont pas travaillé.
Oui.
Tu vois, ils sont là, non, ça va, moi ça va.
Moi j'ai pas de problème.
Moi ça va très bien.
Je sais pas, moi les gens maintenant qui me disent, moi j'ai pas de problème avec ça, souvent je les regarde en disant.
Je n'avais pas posé de questions.
Les gens qui me disent, j'ai pas de problème avec l'argent, souvent je les regarde en disant, mais t'es trop sûr, ah oui, de toi. Pour que ce soit aussi clair.
Mais on a tous un problème avec l'argent. C'est un problème déjà, l'argent dans la...
Non, je crois pas.
Pas la monnaie, hein. L'argent, ouais. L'argent tel qu'on l'a... Là, en ce moment, enfin, tel qu'on le vulgarise, quoi. L'argent est un problème dans nos relations humaines. Parce que c'est une drogue, et toute drogue est un peut devenir un problème. Genre, la weed est un problème. C'est aussi un truc cool, mais c'est aussi un problème.
Mm.
Donc c'est un problème. Il faut en voir le côté néfaste pour toujours l'appréhender, quoi.
Je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, moi, le truc que j'essaie de faire avec mon podcast Histoire d'argent, c'est vraiment de dire aux gens, en fait, tu peux aussi le voir comme un truc simple qui est un truc neutre, en fait.
Non, mais totalement, ça peut l'être aussi. C'est le ça peut.
Oui.
C'est, n'oublie pas que ça peut basculer. Genre, il faut rester vigilant avec l'argent. je trouve, parce qu'il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai eu ce truc où j'avais l'impression que je gérais. Et que j'étais dans le partage, dans le bon investissement.
Ouais.
Et puis il y a des moments, d'un coup, je sais pas pourquoi, non, je fais des choses qui n'ont pas de sens avec cet argent.
Comme quoi ?
Comme payer des choses qui n'ont pas, comme payer des magnums en boîte à plein de gens pour dire ouais, juste lever les bras 2 secondes en l'air et avoir cette sensation que là, j'ai investi pour que les gens me regardent et pour que 2 secondes, on se dise waouh, elle a tellement d'argent.
Ok.
Ouais, tu peux basculer.
Mais c'est bien
bon,
aussi
c'est
parce que
c'est l'alcool qui fait ça. C'est la première drogue, tu vois.
Mais c'est bien aussi parce qu'il y a un moment, il y a un truc de kiff et de partage autour de ça, quoi. Tu vois.
Oui, il y a une
façon. Tu peux le voir comme ça.
Ouais, mais je sais.
Mais tu le faisais.
Au fond de toi, tu le sais.
Tu le faisais pas pour ça.
Ça arrive hein, que j'ai pu faire comme ça. Mais là, ce moment-là particulièrement, j'ai senti que l'argent avait été un problème. Et moi, enfin, c'était moi le problème, pas l'argent. Évidemment que c'est pas l'argent le problème, c'est les gens qui le pratiquent.
En plus, effectivement, t'as toujours cette double casquette de producteur et d'artiste où t'es...
Ça n'a aucun sens, du coup, dans mes réunions. Je sais plus ce qui s'est passé il y a pas très longtemps, mais on m'a parlé d'une dépense, j'étais là, mais qui a dit ça?
C'était l'artiste.
C'est l'artiste. Mais il faut pas. Ça te coûte beaucoup trop cher. Vraiment, les gens, ils me regardent bizarrement des fois dans ma boîte. Ils font, mais c'est toi qui l'as dit. Je fais, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi? C'est terrible. Ouais.
Et d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi ton succès, non? C'est que de ce fait-là,
d'être
t'as une
liberté.
Non, t'as une liberté. C'est aussi ce qui t'a amené dans ton chemin à avoir cette liberté aujourd'hui de pouvoir t'autoproduire, quoi.
Pas de l'argent?
Le fait d'aller chercher cette casquette de productrice, d'avoir cette double casquette.
Je crois pas que je l'ai cherchée. Hein.
Tu l'as jamais cherchée?
J'étais déjà sur ma tête. Je vois. Quand je raconte en interview, on me demande c'est quand votre premier sketch, et puis c'est comme ça que j'ai compris que j'étais productrice depuis toujours. Genre, j'avais 7 ans et j'ai fait mon premier sketch, je crois que j'en avais même parlé, avec mon cousin, et j'ai fait payer l'entrée de la salle.
Ah ouais.
Tu vois, il y avait 3 personnes dans le public, mais il y avait le principe quand même de payer l'entrée parce que j'avais fait un travail.
Ah ben, pas mal.
Tu vois, j'ai fait une mise en scène, les décors, je pense que je mérite 10 centimes par entrée. Et c'était une économie, c'était pas du tout un truc pour le... Je sais que c'était sain, mon rapport à l'argent à ce moment-là. C'était juste, il me semble que j'ai travaillé. Et vous avez... Enfin, là, j'ai besoin d'argent. Peut-être que j'ai besoin de carottes, vous aurez demandé des carottes. Mais honnêtement, tu vois, il y a plein de moments où je me dis... Si les gens pouvaient directement payer mon loyer quand je fais un spectacle, moi ça me va. Hein.
De faire un virement à ton propriétaire ou à ta banque.
Payer en weed, en bouffe, et ça me dérange pas trop.
Ramener des pâtes
ouais.
Pour la prochaine fois que vous venez voir Shirley, quoi.
En gros, pour faire ce travail, ça pourrait être l'échange. Ça m'irait très bien.
On pourrait remettre en place du troc de façon
sur
un peu intelligente,
choses, ouais.
Mais c'est... C'est sûr que c'est pas la même, c'est plus la même société, quoi.
Bah du coup, ça me remettrait à ma place, je pense, en tant qu'oratrice dans notre société.
Ah.
Je suis juste une oratrice de village, moi. Donnez-moi du pain et de la bonne weed, tu vois. Venons, on passe des moments à discuter. J'espère que quand j'aurai une galère, vous serez là. Ça, tu vois.
Ah, trop intéressant.
Alors que si tu me donnes de l'argent, t'es en train de tu me fais une offrande.
Okay.
Parce que moi, j'ai pas décidé de parler. C'est comme ça, c'est ma mission.
Tu considères que c'est ta mission?
Ouais, je considère que c'est ma mission dans le sens où c'est ma vocation. C'est le truc qui me parle le plus. C'est ce que, enfin, comme tous les artistes humoristes, j'imagine que je connaisse en tout cas et que j'aime beaucoup. C'est des choses qui nous dépassent. On a vraiment besoin de le faire. Donc c'est pas genre courageux de le faire. Ça serait courageux de fermer nos gueules. Tu vois. Donc, donnez-nous du pain.
De devenir comptable. Ça serait courageux que tu deviennes comptable, que tu sois venu comptable ou que tu fasses un métier de bureau. Quoi.
Ouais, c'est courageux pour le coup, je trouve, d'avoir tenu un peu la boîte quand même parce qu'il y a une dualité avec l'artistique, tu vois, avec l'humoriste que je suis. Il y a plein de moments où j'étais très triste d'être au bureau. Quoi. Et j'ai mis du temps à comprendre que j'étais triste. Et un beau jour, il y a quelques jours, j'étais là. Je crois que j'aime pas du tout cet environnement. Je crois que.
Quelques jours là?
Oui, il y a quelques mois. Il y a 2 mois, je pense, un truc comme ça. Et je dis, en fait, je crois que j'aime pas du tout le bureau. J'aime pas ça. Tu vois?
Waouh!
Ouais.
Et ça fait quoi?
Ça fait du bien.
Ça fait des années que tu te produis.
Non, ouais, j'aime pas, ouais. En fait, c'est le cadre dans lequel je me suis mis. C'est pas le fait de créer des choses. Ça, c'est cool. C'est pas le fait de produire, puisque c'est créer des choses. C'est faire ce que je faisais quand j'avais 7 ans. Et dire, c'est un peu payant, parce que nous, on a mis du temps et tout, mais ça pourrait être autre chose en termes de monnaie. Mais du coup, c'est vraiment la façon. Et mon rapport à l'entrepreneuriat.
Ok.
Qui est aussi un rapport à l'argent très proche. Tu vois?
Il y a vraiment.
Je me suis prise pour une productrice à un moment donné, quoi.
Tu veux dire dans quel sens?
Je sais pas, toi qui as monté une entreprise, tu vois. Moi, je me suis pris pour une chef d'entreprise.
Oui.
Comme je me suis pris pour une star à un moment donné aussi. Parce qu'on m'a dit, t'es une star. On m'a dit, t'es une chef d'entreprise. Tu sais, c'est des rôles.
Ouais.
Et donc, du coup, si on dit, t'es un pompier, tu vas dire, ouais, j'éteins un feu. Il y a des trucs un peu mécaniques comme ça qui viennent quand tu dis chef d'entreprise, tu dis argent, il y a des choses qui te viennent en tête. Et comme c'est pas ma mission ni ma vocation, j'ai dû emprunté un peu un rôle et je me suis un peu trop cru dans quelque chose. Et maintenant, j'arrive à m'aligner. Donc, je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir un bureau. Il n'y a pas besoin que l'imprimante soit face au truc comme dans les entreprises. L'ergonomie, je fais la fais comme je veux, en fait. Si je veux que ça soit dans mon salon, bah, c'est dans mon salon.
Ah oui, d'accord. C'est que, oui, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, c'est con, ouais. En fait. Mais s'il faut que ce soit dans l'herbe, c'est dans... J'ai eu du mal
Détricoter.
Ouais, détricoter. Parce qu'en plus, j'ai engagé des gens qui viennent aussi de ce monde tertiaire et qui eux aussi, des fois, ont du mal à détricoter certaines choses. Ouais. Comme la liberté que je leur donne. Genre, tu fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille, tant que tu travailles, tu fais ce que tu veux. Quoi ? Ça veut rien dire ? Ouais, bah, écoute.
C'est très dur, hein.
C'est dur.
Et je trouve qu'il y a un truc dingue aussi, c'est qu'en France, si tu veux, si t'as un projet, si tu veux mener à bien un projet, t'es à peu près obligé de passer par l'entreprise. C'est quand même le truc à peu près le plus simple de créer une boîte.
Oui.
Et le problème, quand tu crées une boîte, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé de devenir chef d'entreprise.
Ouais, c'est ça.
Alors qu'en fait, toi, tu veux juste créer un projet.
Ouais. Moi, j'ai toujours dit, quand j'ai monté ma boîte, si quelqu'un veut bien... j'ai comme si j'avais fait une maison, je dis maintenant, si quelqu'un veut bien être propriétaire ou concierge, j'allais s'occuper du reste. Et personne n'est là, mais c'est ta boîte, t'es là, mais non, j'ai juste fait les murs. Vous pouvez...
C'est un truc qui est très très compliqué à comprendre, c'est que tu peux trouver quelqu'un qui peut gérer la boîte à ta place à un
moment
donné.
Ouais, de fou. Mais ça y est, ça commence à venir dans l'idée où les gens qui travaillent avec moi et que j'ai engagé, ben, ça y est, je leur ai donné suffisamment de skills dans ce que je voulais et dans mon carnet d'adresses, dans leur aisance et tout, que je peux commencer à faire mon travail.
À aller vaquer et commencer à juste te mettre dans l'herbe et penser à des blagues.
Ouais, ça fait vraiment là 3 mois. Depuis que j'ai dit la phrase, ça sort en fait, clairement. Et puis le monde, quand ton intérieur change, l'extérieur aussi. Donc j'ai révélé un truc. C'est ce que je dis souvent. L'intérieur, c'est le reflet de ton... L'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Et j'ai extériorisé quelque chose et ça fait basculer... l'environnement aussi dans quelque chose de plus safe pour moi en tant qu'artiste, et du coup c'est trop cool là, c'était un peu la mission aussi quand j'ai monté la boîte, c'était ça. Mais en tout cas le rapport à l'argent, pour revenir là-dessus, c'est, tu vois, avec une employée actuellement, il y a cette question qui se pose parce que sa mission se termine bientôt et j'ai vraiment pas envie d'être chef d'entreprise, et elle m'oblige dans sa posture à être chef d'entreprise, et du coup je lui explique en ce moment ma dualité, je lui dis en fait, elle me dit qu'on continue après, je fais alors, t'as plein de compétences qui sont géniales et que je remets pas du tout en question, mais il y a une chose qui n'a rien à voir avec tes compétences mais qui pour moi est très compliquée à gérer, c'est que tu me mets dans cette posture de chef d'entreprise où des fois je dois te reprendre ou faire des trucs parce que t'as besoin de quelqu'un au-dessus de toi qui fait, et moi j'aimerais qu'on soit pas dans une hiérarchie pyramidale, mais tu vois, qu'on soit sur la même ligne et qu'on collabore. Mais tu n'as pas dans ta vie personnelle assez confiance en certaines choses pour comprendre tes compétences et tes qualités, et c'est toujours à moi de te rappeler tes qualités, donc ça me coûte beaucoup d'argent, parce que malheureusement dans le monde dans lequel on vit, le temps se calcule. En plus, moi je viens d'un milieu où on peut calculer notre valeur à la minute, et tu me coûtes énormément, tu es plus payé que moi. Donc, rajoute ça entre les heures où je te donne des conseils, je te remotive, où je surveille ce que tu fais, parce que du coup, je perds un peu confiance, donc je dois, le matin, checker un truc. Tous ces petits moments-là font que, moi, tout ce que je te demande depuis le début, pour savoir si je te garde, c'est, dis-moi en quoi tu es indispensable à notre activité, et est-ce qu'on peut faire une opération blanche avec, entre ce que tu rentres et ce que tu sors. Si tu es capable de me le dire, moi, je pourrais lui dire... À sa place, je veux dire, elle pourrait rester dans la boîte, tu vois. Mais si elle peut pas le dire, je peux pas le faire à sa place. Parce que sinon, ce que je lui ai dit, hein, je lui ai dit, on peut rester amis, parce qu'on s'entend bien. Mais pour la boîte et pour notre bien-être à tous, ça veut dire, tout est en ordre de toute façon. Donc si tu ne restes pas, c'est que ton chemin, il doit être encore aller chercher, encore puiser au fond de toi. Parce qu'elle, elle aimerait tellement rester. Parce qu'elle se sent tellement bien. Elle m'a dit, moi, depuis que je suis là, je me sens trop bien. Je dis, mais ici, c'est pas une thalassothérapie. Ça me fait trop plaisir, en plus ça m'embête de dire ça, mais ça me fait trop plaisir que tu te sentes bien. Mais moi je me sens pas de ouf. Comment ça se fait? Faut que ça soit mutuel. Donc je veux pas que l'argent, est-ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, l'argent ça peut être un problème pour moi comme tout pour toi, qui stresse pour savoir si tu vas garder ton contrat, et tu ne penses qu'à ça là quand tu me demandes finalement si tu vas rester. Ce qui t'angoisse profondément, c'est de savoir comment tu vas payer ton loyer alors que tu vas être au chômage, mais pour un temps en tout cas. Mais voilà, je comprends ton stress. Mais sache que t'en mets un aussi sur moi, puisque moi, tout ce que je veux savoir, c'est que l'énergie que tu apportes à la boîte, tu la ramènes aussi à la boîte. Et elle se calcule en argent. C'est pas moi qui ai décidé des règles. Donc si t'es capable de montrer par un calcul verbal que ça s'équivaut, ben après c'est bon, laisse-moi tranquille. Enfin, tu restes, tu fais ton contrat toi-même, de toute façon c'est toi qui fais les contrats. Tu fais ton contrat et tu signes. Mais je veux que tu fasses face à toi-même, laisse-moi tranquille. Et donc c'est trop bien, parce que ne pas être dans un truc pyramidal pour moi, ça permet de vraiment d'avoir une famille artistique et de travail avec qui on peut avancer, mais sur qui j'ai pas de responsabilité. Mmh. Tout le monde est responsable de lui.
J'allais dire, ça va aussi avec ton, j'imagine que ça va aussi avec ton chemin personnel par rapport aux gens que tu recrutes et que tu fais rentrer dans ta boîte.
Bah oui.
Moi, j'ai mis très longtemps avant de comprendre les gens dont j'avais besoin.
Oui, bah oui, ça a été comme les couples pour moi. Les premières copines avec qui j'étais, c'était vraiment tous les trucs, les erreurs. J'étais là, bon, bah, je veux pas recommencer ça, et puis tu recommences quand même. Et en avec les employés, c'est pareil. Je couche pas avec, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire.
Bon. Non, mais tu fais.
Au cas où il y a des montages.
Tu vas chercher souvent les gens pour des bonnes raisons, ou tu fais rentrer les gens dans ta boîte pour des bonnes raisons qui sont pas forcément toujours les bonnes, ou en tout cas, qui sont peut-être bonnes pour toi en tant que patron.
À ce moment-là, ouais.
Qui sont peut-être pas bonnes pour la structure.
Ouais, c'est bon pourtant donc être humain à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, un jour, j'ai recruté quelqu'un parce que j'étais malade, elle m'a donné un mouchoir.
Ok.
c'est après coup que je me suis rendu compte.
Le mouchoir le mieux rentabilisé.
J'étais là, oh là là, mais elle est tellement attentionnée, j'ai tellement besoin d'attention en ce moment. T'es là, mais c'est ça que tu cherches, quelqu'un qui te donne de l'attention, parce que ça s'appelle couple, quoi. Et c'est un problème, là, Charlie. Tiens. Mais je m'en suis rendu compte après coup, parce que tu peux te mentir à toi-même sur les raisons pour lesquelles tu engages. Je me suis pas dit, elle m'a donné un mouchoir, je vais l'engager. Mais le sous-texte, c'était ça, en fait. Je me suis refait tout l'entretien. J'étais, mais en fait, t'étais juste fatigué. Et t'avais juste besoin d'un mouchoir et qu'on te dise, tiens, regarde, je fais attention à toi qui travailles tous les jours et tout ça. Mauvaise idée de ouf.
Bon. Pas très bonne idée.
Ouais.
Charlie, on est là pour parler de ton nouveau spectacle.
Oui.
En plus, vraiment.
Ouais.
Qui est fabuleux, que j'ai vu il y a quelques mois.
Ouais, mais ça passe. Hein.
Que tu rejoues le 12 juin au théâtre de l'Atelier. Et est-ce que tu le rejoues après, parce qu'il n'y a pas d'autre date prévue?
Ouais, non. Je vais. Tranquille, Oubilou, là, je suis en train de faire ma maison à la campagne.
C'est vrai?
Alors, en fait, je sais pas, je le vois vraiment. En fait, je l'ai fait à l'envie. Donc, le 12 juin, il y a le théâtre de l'Atelier. On avait envie de faire le Lavoir Moderne. On a fait Lavoir Moderne. Lavoir Moderne, ça nous a permis de faire une résidence un peu aussi technique et de scénographie pour mettre en place la scéno, le décor et travailler la lumière qui va avec.
Lavoir Moderne, qui est une sorte de pièce, enfin d'endroit fabuleux dans Paris, si vous êtes jamais allé.
C'est une salle de théâtre à l'ancienne, avec du bois, des charpentes, c'est assez joli. Et du coup, on l'a décoré. C'est marrant parce que même il y a des gens qui ont fait en commentaire ou en tour critique, c'est génial. La salle, en plus, la déco de la salle, elle est incroyable. Je dis, ah, mais c'est pas ça tous les jours. C'est nous qui avons mis la déco. Mais ça fait plaisir, du coup. Tu dis, t'as trop cool. On a créé l'ambiance que je voulais et tout. C'est trop bien. Et du coup, je voulais faire le théâtre de l'Atelier, une plus grosse salle. Et puis, j'aimais bien cette salle. Je me suis dit, vas-y, on essaie de voir comment la forme du Lavoir Moderne, on la recrée dans une salle plus théâtrale, parce que quand je serai en tournée, ben, il y aura aussi ce genre de salle, et puis ça donne un rendez-vous avant l'été pour montrer à plus de monde encore le spectacle, mais je n'ai aucune volonté capitaliste avec ce spectacle. Du coup,
on revient à l'argent.
Ouais, on revient à l'argent, mais c'est, parce qu'en fait, je me rends compte à quel point des fois on choisit nos chemins artistiques pour les mauvaises raisons et on se ment à nous-mêmes. On est là, non, mais c'est parce que les gens ils vont voter là, non. Moi, je pense, en tout cas pour un stand-up, surtout pour moi celui-ci, j'ai besoin de le dire quand j'ai envie de parler.
Ok.
Tu vois? Parce que sinon, je vais finir par réciter et je veux pas réciter.
Mm-hmm.
Je vais me surprendre à chaque fois que je le fais, ce spectacle. Donc à partir de septembre jusqu'à décembre, je pars en tournée des comedy clubs, je vais faire des nouvelles blagues.
Des nouvelles blagues qui n'ont rien à voir avec ce spectacle.
Ouais, qui n'ont rien à voir avec ce spectacle. Ça y est, on commence à être.
Ça veut dire que tu l'auras joué genre 5 fois.
Non, attends, j'ai pas fini.
D'accord, ok.
J'ai pas fini. Non, on va annoncer des dates pour 2023.
Ok.
Dont Paris. Parce que Paris, je considère que c'est une ville comme une autre en France, sauf que c'est la capitale. Du coup, on fera Paris et d'autres villes en France qu'on annonce pour 2023. Et je reprendrai à être humain en 2023. Parce que du coup, il aura eu le temps de mûrir encore.
Ah, ok, on va en reparler, mais tu trouves là qu'il n'est pas mûr?
Non. Bah, en fait, il est en rodage. Mais
là, ce que tu m'as montré, là, c'était du rodage.
Ouais, oui, de ouf.
Ah, ok.
Merci.
Moi, j'ai trouvé que c'était le truc le plus. C'est l'un des trucs les plus dingues que j'ai jamais vu.
C'est waouh, ça me touche.
Vraiment.
Merci, merci, merci.
Vraiment.
Et, mais en termes de stand-up, je me dis, il y a plein de trucs à travailler.
Ok.
Et puis, tu sais, il y a l'intro. Je parle du Barbès. Les choses changent beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai à raconter nouvelles. Donc, l'intro va changer forcément. Elle était dans l'air du temps à ce moment-là, mais je parlais du Covid, là, on va finir par... Ça s'effrite.
Ouais.
La vanne, je suis le sens que les gens sont là, quoi, ouais. Le quoi ?
C'est comme les séries où ils mettent des masques, là, ouais. T'es là, pff, c'est vrai, ça commence à être daté, arrêtez.
Donc, ça y est, là, je sens que cette intro, elle est datée, donc si je...
Okay.
Tu vas voir que si tu le vois, là, le 12 juin, avec cette même intro, tu vas dire, oh là là, c'est pas le meilleur spectacle du monde, hein. Elle est ancienne, elle. Donc, il faut que je mette ça à jour, et puis j'ai vécu des nouvelles choses à la campagne, là, depuis que je vis là-bas, qui m'ont remis à... Un petit coup de frais dans mon écriture et dans des trucs que j'ai envie de raconter.
Soit tu m'en dis trop, énorme. Soit pas assez, là, tu vois.
Ah ouais, bah alors, pas assez. On va teaser, alors. J'ai fait des rencontres extraordinaires, écoute. Donc, j'ai des storytelling en veux-tu, en voilà, qui sont assez ouf et qui me rappellent pourquoi je suis humoriste à la base. Parce qu'entre les Parisiens, entre nous, on... Surtout que tu commences à traîner avec les mêmes personnes, tu commences à être d'accord. Mais oui, mais bien sûr, mais évidemment que le racisme, c'est pas bien. On est entre nous. Et je sais même pas pour contre qui on s'énerve parce qu'on les voit pas ces gens-là. Et après, tu vas vivre à la campagne. T'es là, ah, c'était vous. Ah là là, la dinguerie que tu viens de dire. Quoi, Hitler, il avait pas tout à fait tort. Aïe, 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 repasse-moi des chips.
Putain.
C'est.
Ok.
Mais en même temps, je suis tombée amoureuse de la ville où je suis, des gens et tout ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bon, bref, j'ai plein de trucs à raconter là qui font flipper dans ma tête. Mais là, j'ai pas joué depuis 3 semaines. J'étais donc en train de découvrir cette campagne et je rejoue ce soir au Sarfati, donc je vais tester des petites choses. Et donc, je fais ma tournée des comedy clubs de septembre à décembre parce qu'il y a plein de comedy clubs maintenant ailleurs qu'à Paris.
Ça, c'est fou.
Et ça, c'est chambé. Mmh. Donc, je vais aller jouer à Marseille, à Montpellier, à Angers, à Nantes, pour parler de la France, Lille. Mais je vais aussi faire Londres, Montréal. Je vais vraiment partir en comedy club pour faire des blagues, quoi, tu vois, muscler okay. Tout ça, filmer, parce que j'ai été moins présente sur ma chaîne YouTube et pendant un moment je l'ai pas mal tenue, donc j'ai envie de revenir sur le digital.
Sur les internets.
Un Twitch. Alors les gens m'ont demandé un Twitch, je vais le faire. Écoute, j'ai bien aimé, t'as vu, en plus.
Ah oui, les gens ne le voient pas, mais.
Ouais, bah oui.
Il y a du matos, il y a un stream là.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi lancer un
C'était
petit Twitch.
C'était juste pour faire un Twitch avec Arte, ça. Ils m'ont envoyé du matériel. Mais ils n'ont pas récupéré encore. Je le garde comme si c'était à moi. J'attends qu'ils m'appellent. Non, c'était avant-hier. Et en tout cas, j'ai envie de créer des choses parce que j'avais fait des podcasts, Vivement Dimanche, etc., où ça discutait, les gens aimaient bien. Pendant le confinement, il y a eu pas mal de bons retours encore. Et puis de remontrer encore du stand-up nouveau de moi dans le format que j'avais fait qui s'appelle Définition, où je prends un mot, j'en donne sa définition. Parce que je me suis rendu compte souvent quand on discutait avec quelqu'un qu'on n'avait pas la même définition ouais. Des mots et que c'est incroyable à quel point on se la raconte sur des trucs qu'on connaît pas du tout. Et puis surtout, ça crée des discords des fois dans les conversations.
Oui, c'est ça.
T'es là, mais qu'est-ce que tu veux dire?
T'es Mettons-nous que... d'abord d'accord sur
ouais,
ce dont
mot,
on parle.
La définition officielle. C'est dingue, des fois il y a des gens, tu leur montres la définition et ils arrivent quand même à discuter. Ils font oui, mais tu vois ce que je veux dire. Bah oui, mais il y a des mots, il y a des règles.
Ouais, après, c'est que la vie n'est qu'interprétation.
Exactement. Mais bon, si on part de là, autant plus de se parler. Puisque chaque interprète ce qu'il veut, t'as beau. Dans ce cas-là, fais ce que tu veux, fais ce que je veux. Mais ce qui est possible aussi, oui. En tout cas, voilà. Je prenais un mot qui me paraissait, qui me faisait marrer, où j'avais une histoire à raconter dessus, un point de vue, etc. Donc je donne la définition officielle et puis je fais mon stand-up à la fin, tu vois, ma définition du mot. Qui prend la racine de la définition officielle et qui est un peu dérivée à la fin.
Okay.
Justement, mon interprétation, d'après mon expérience. Et du coup, je vais reprendre ça, définition. À la rentrée, quand je serai en comedy club, je tournerai c'est des trucs qui durent 2 minutes. Donc, je prends un mot. Là, j'en ai plein de nouveaux. Woke, boomer. Tu vois, des nouveaux mots, je sais pas où j'étais. Mais un beau jour, j'ai découvert plein de nouveaux mots. Je te dis, c'est quoi ça, woke?
Je sais pas où j'étais.
Je sais pas, c'est dingue. T'es certainement en train de gérer un comedy club.
Oui.
Mais woke, là, j'ai vraiment cru que c'était un plat pendant. Enfin, que c'était que un plat pendant.
Ah oui.
Et je faisais semblant de comprendre. Je disais, ouais, on est woke de ouf. Je sais pas ce que c'est.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour les gens qui savent pas, woke, ça vient de ça vient de des États-Unis, qui signifie éclairé, et en gros qui veut dire en France tous les gens qui ont un peu conscience de des inégalités sociales, culturelles.
Mais pas du mot woke, c'est possible d'être woke et pas savoir.
Mais en même temps, c'est la meilleure façon de l'être, je trouve.
Ah ouais.
C'est de juste l'être. Non mais tu vois, c'est de l'être et de pas avoir les, de pas avoir se le coller terme. L'étiquette quoi sur le front.
Oui bah c'est flippant quoi, parce que je me sens ouais. Et est-ce que boomer, on peut être boomer et woke?
Bah oui.
J'ai du mal encore à comprendre tes définitions.
Pour moi, un boomer, c'est vraiment un mec qui va dire un truc à côté de la plaque, tu vois, qui est plus dans l'air du temps. Mais en fait, globalement, moi, j'ai des meufs chez Mademoiselle qui me disaient que j'étais un boomer.
Okay.
Et je leur disais, en fait, si vous êtes... Elles avaient 20 piges, tu vois. Et moi, je leur disais, en fait, si votre niveau de débat et de vouloir discuter avec moi, c'est juste de venir me dire quand vous n'êtes pas d'accord, OK, boomer, tu vois. Je leur dis, peut-être on peut juste essayer d'aller un peu plus loin. Un jour, je me suis vraiment énervé sur
elle. Je sens que t'es encore un peu en colère.
Je me suis vraiment énervé sur elle en leur disant, en fait, tu peux me dire boomer si tu veux, mais c'est pas un argument, quoi.
Ouais,
tu vois,
sûr.
Tu peux juste venir m'expliquer pourquoi t'es pas d'accord
oui,
avec moi.
Oui, c'est un peu un truc taquin, quoi, boomer.
Bah c'est juste ta gueule vieux con. C'est l'équivalent de ta gueule vieux con. Genre je dis, moi je veux bien que tu me prennes pour un boomer, mais juste explique-moi au moins pourquoi, quoi, tu vois. Après on peut discuter.
Je pense que c'est une réponse de boomer que tu viens de faire.
Bah peut-être.
Peut-être.
Mais ceci
pas
dit,
trop compris la définition.
Ceci dit, c'était la réponse de leur patron aussi, tu vois. Donc
mais
à un moment donné,
c'est clair.
C'est vrai. T'es pas...
Non, mais c'est vrai que.
On revient à la thalasso, tu vois. C'est pas une colonie de vacances, hein, cette boîte. Bref. Vous m'avez pas vu, mais je suis parfois très heureux de ne plus avoir autant de salariés. Je voulais reparler de... Est-ce que ça te va si on parle du contenu d'être humain?
Oui, bien sûr.
Parce que pour moi, c'est ton Annette.
Oui, bien sûr.
Pour les gens qui ne l'ont pas, Nanette, c'est le spectacle d'une humoriste qui s'appelle Anna Gatsby qui, à mon avis, a creusé pendant plein d'années pour finir par en arriver
à exploser sur scène.
Et j'ai l'impression que tout ce que tu as produit sur scène depuis 10 piges, même plus, hein, 15, finit par t'amener là où t'es aujourd'hui à être humain, quoi.
Ouais, bien sûr.
Je me dis juste, mais d'ailleurs, t'en parles, je crois, dans le spectacle, ou peut-être t'en as parlé après dans la FAQ, t'as fait une petite question-réponse après. C'est quoi la suite? Comment tu peux aller creuser plus loin? Ça te fait un peu peur, ça, ou pas?
Pas du tout.
Non, ok.
Au contraire, ça me fait du bien de me dire que peut-être je vais faire une pause.
Ah oui.
Non, je suis contente. Je suis déjà contente qu'il soit reçu comme ça, le spectacle. Parce que il est à certaines parties hyper personnelles. Et du coup.
Il est très personnel sur à peu près tout.
Ouais. Ah ouais. Il y a des trucs qui me paraissent très universels.
Oui.
Tu vois.
Mais
avant d'être personnel. Mais il y a des choses qui sont directement personnelles.
Qui sont très intimes.
Ouais, de fou.
Bah, non, tu parles beaucoup de ton genre. Enfin, moi, j'ai vu l'affiche arriver. Je me suis dit, ça y est, Shirley est en train de poser un truc là où tu joues depuis des années sur ta fluidité de genre, en fait.
Ouais.
Et là, tu mets les mots dessus.
Ouais.
Et je crois que c'est la première
fois. Je les avais pas, moi, ça arrivait avec Boomer. Hein.
Voilà.
Putain, bah voilà, c'est ça que je suis depuis le début. Non binaire. Moi, j'aime bien ça, oui.
Donc tu te situes entre les deux genres, tu sais pas vraiment où.
Si, je sais.
Oui,
je le sens. En fait, si je peux limite on peut faire le jeu, je peux te dire toutes les secondes où je suis. Souvent ça va être quand même assez permanent sur quelques minutes, heures, journées, mais ça peut vraiment fluctuer, je peux vraiment te dire. Et en plus il y a cette sensation d'avoir vraiment, c'est quelque chose dont je parle sincèrement, tu vois, par rapport à des choses dont je parle en spectacle, il y a des conséquences à certaines expériences de vie que j'ai l'impression de découvrir chez moi. Alors, je sais pas du tout si c'est le cas, il faut absolument que j'aille voir, mais j'y vais pas chasser pour des troubles de l'identité, tu vois.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir plein de couches à ces, tu vois, à cette fluidité.
Le problème, c'est qu'une fois que tu ouvres, enfin que tu soulèves le tapis, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses derrière, quoi. C'est sûr.
Ah oui, c'est clair. Oui, quand tu commences à vraiment aller dans la cave, regarder les tuyaux et tout, t'es là, ah, ok, c'est comme ça. Ah, il est cassé ce tuyau, c'est bien ce que je me disais, ça fuit dans la cuisine. Ah, c'était là. Et ouais, donc contente de sentir... on fait pas, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer. Moi-même, je savais pas que ce spectacle allait arriver. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles que tu prépares, que tu projettes. Et celui-là, je l'ai vraiment jamais vraiment projeté. Ah. Jusqu'au titre et tout, c'est arrivé, tout est arrivé un peu, je sais pas quand. J'arriverais pas, tu vois, il y a des SketchUp, mon premier spectacle, je m'en rappelle. Quand j'imaginais des choses, le truc. Là, j'ai vraiment découvert avec les gens parce que j'ai commencé le rodage du spectacle après confinement et j'avais rien écrit. Un jour, on m'a dit, mais là, t'as une date demain, là. Je fais là. Mais je sais plus faire, j'ai plus de blagues, moi.
Quand tu dis le Barbès, c'est parce qu'en fait, t'as ouvert il y a quelques années un.
Ouais, octobre 2019. J'ai ouvert le Barbès Comedy Club en octobre 2019, donc vraiment avant le confinement. On a vécu toute l'aventure de rencontrer public, de fermer les portes, de réouvrir, couvre-feu, etc. Donc, je faisais tout pour que la marque puisse garder sa rayonnance et tout, parce que ça avait bien commencé, donc il fallait pas descendre en termes de présence et tout ça, et que les artistes se sentent toujours aussi bien malgré tout. Donc du coup, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, et du coup, rien que d'y penser, j'ai oublié où on avait ça m'a fatigué.
T'avais mis de côté tout l'aspect artistique pour le coup, t'avais...
le mien en tout cas, ouais. Je commençais à le perdre presque là. Il y a eu un moment assez clé ici même avec Navo qui m'a rappelé qu'il fallait que je m'occupe d'une marque qui s'appelle Shirley. J'étais là, c'est une marque? Ah ouais, c'est pas que mon prénom.
C'était quoi votre discussion avec Navo à ce moment-là?
Écoute,
tu travailles depuis des années, hein, pour expliquer un peu aux gens avec Navo, c'est un peu ton Jiminy Cricket.
Ouais. On a fait plein de digressions là. Je suis là, attends, on a parlé d'un truc avant. Ouais, TDI, c'est ça. Ah ouais, c'est à chaque fois que je parle un truc comme ça, j'oublie. Je n'en étais où déjà? Ah ouais. alors, Navo. On a fait un projet il n'y a pas longtemps ensemble. Et dans ce projet où je devais être à la fois artiste, productrice, directrice artistique, je parle de ma marque et de mes stratégies, de ce que je vais faire, de ce que mon avocat il a dit. Et à un moment, il me regarde, il me dit Hey, je m'en bats les couilles de Barbès Comedy Club. C'est le parrain du Barbès. Je m'en bats les couilles de tout ça, ta marque Barbès, ta stratégie. Moi, si je ne suis pas à prod, c'est vraiment pour éviter ce genre de discussion. Donc vraiment. Tout ce que je vois, c'est que la marque Shirley, elle fait n'importe quoi. Sur scène, c'était pas ouf. Et tout ce qu'il disait, c'était vrai, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais pour ton vrai travail, celui pour lequel on s'est rencontrés? Il me dit, là, tu me parles comme si t'habitais dans un palace. Regarde où t'es. Tu me parles comme si t'étais Jeff Bezos. Et tu es dans cet endroit, tu vois, qui est vraiment rue là-bas, ghetto de ouf. Et après, là, j'ai rigolé de ouf. J'étais là, le bâtard.
Il a parlé vrai.
Il a parlé vrai. Il m'a mis un petit coup de poing amical. J'étais là, ah, waouh, je suis réveillé. Allez, on repart au travail. C'était très récent, ce truc-là. Mais ça m'a réveillé quand est-ce que je devais faire. Pourquoi on en arrivait là? Parce que
c'est cool d'avoir des amis comme Navo.
Ouais, c'est chouette. En gros, quand je fais le rodage du spectacle, j'ai vraiment pas de blague parce que j'ai trop donné, encore une fois, au Barbès Comedy Club. Donc on remonte de 3 ans avant. J'ai donné. J'oublie, il y a 1000 trucs qui me perturbent là. Je sens que.
Qu'est-ce qui te perturbe?
Parce qu'en fait, j'essaie de pas oublier un truc qu'on a dit au tout début, mais je l'ai oublié depuis longtemps. Il y a un bonhomme qui retient une info. Et là, il y a une info là. Et je fais, c'est quoi? Il fait, je sais pas, je sais plus.
Tu peux me laisser au pire. Hein. Mais je sais pas si c'est un truc que t'avais juste dans la tête. Mais moi, ce que je me demandais, c'était un peu comment t'en étais venu à écrire ce spectacle, quoi.
Voilà, et ben donc je parlais de ce rodage, merci, je reviens. Où j'arrive avec rien, puisque j'ai pas eu le temps d'écrire. Et on sort du confinement et toutes les dates ont été reportées, tu sais. Et à un moment donné, j'étais dans la vibe d'écrire, de faire des stand-up et tout ça, et puis confinement, et puis hop, je suis reparti dans l'entrepreneuriat uniquement. Quand j'arrive à ma première date à Caen, ben j'ai pas de blague et je décide d'y aller sans blague, en fait. Je prends la décision genre 3 jours avant. La décision était déjà prise, mais je me suis menti même pendant jusqu'à 3 jours avant en me disant « Bon, bah visiblement, tu n'as pas écrit. » On en vient toujours à la même conclusion, putain. Donc t'as déjà fait des trucs comme ça sur scène et tout. Tu verras, t'as quelques idées, tu vois, j'écrivais des trucs, mais j'arrivais pas à écrire, en fait. J'arrivais plus à faire comme avant, à écrire des phrases en entier et tout, raconter tout un truc, aller sur un cahier. Donc j'écrivais des idées. Ouais, je veux parler de ça, ce sujet-là, je veux parler... Ces sujets, j'écris des mots. Et j'arrive sur scène et tout, et je dis aux gens, et vraiment j'ai peur, hein. Je bois beaucoup de whisky. Je suis arrivé avec la bouteille, le verre et tout. Déjà, c'est à Caen, au Théâtre à l'Ouest. Théâtre à l'Ouest, c'est une configuration assez simple, hein. Les gens ils sont en face de toi, comme dans tous les théâtres. Mais il y a aussi un côté un peu cabaret, bref, il y a un petit balcon sur le côté, machin. Et je dis, ah, ça va pas la config et tout. Ça fait 2 ans que j'ai pas joué, hein. On se remet bien, que j'ai pas vraiment joué mon spectacle. Et vraiment, je suis là, ça va pas, et je mets des chaises sur la scène pour que les gens m'entourent, un peu comme on a l'avoir moderne du coup dans la scénographie. Je dis, je veux que les gens soient à côté de moi, je veux pas être face à eux comme si j'avais un texte. J'ai pas de texte. Il faut qu'ils soient à côté de moi, on se tient la main. Ils sont autour de moi, on fait un cercle, quoi. Donc il y a des gens en face, sur le côté, sur la scène. Les gens ils comprennent pas. Tu vois bien qu'ils sont, ils se comportent comme des figurants et tout. Ils comprennent pas pourquoi ils sont sur scène. J'arrive à casser ce délire-là. On discute et je leur dis, j'ai rien. Mais j'ai des trucs, mais j'ai rien, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas. Mais là, tu vois, ça commence à rigoler, genre. Tu vois. Donc je dis, bah, ah, un rire. Ah, je me rappelle déjà c'est quoi des rires. Je commence à parler avec eux et je dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un chronomètre. Je dois aller jusqu'à au moins 1 heure de spectacle pour que vous n'ayez pas payé pour rien. Vous avez le droit de m'insulter. Peut-être on verra pour les remboursements. Mais laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, vas-y. Et on y va, quoi. J'essaye un truc, 2 trucs, je raconte un autre truc. Je rebondis. Des fois, je sais évidemment, ça fait 15 ans que je fais ça, donc je me dis, si jamais c'est la merde, t'as quand même des blagues. Donc au pire, tu refais des blagues. Les gens, ils aiment bien. Moi, ça me rend folle de refaire des blagues qu'ils ont déjà vues à la télé. Mais ils aiment bien. Et des fois, il y en a qui ne connaissent pas. Parce que dans ta tête, t'es Michael Jackson, mais on ne connaît pas ta blague. T'es, mais je l'ai quand même fait à Montreux. Ils ont vraiment jamais vu.
Et ouais, en fait, puis quand tu vas voir les Rolling Stones, t'aimes bien qu'ils te chantent Satisfaction,
oui, voilà,
quoi.
Tu vois. Donc je me dis, bon, t'as quand même un truc de secours. Et ben, je m'en suis très peu servi. Je m'en suis pas servi. C'était plutôt genre, oh, ok, ce sujet-là, il va avec cette blague-là que j'ai déjà. Clairement, il faut que je la fasse maintenant. Tu vois, donc c'est comme ça qu'elles sont arrivées, les blagues à l'ancienne. Elles sont pas arrivées comme, on change de sujet, hein. Tu vois, ça, c'était trop cool. J'ai pu parler avec eux, on a créé un lien. Parce qu'en fait, de toute façon, j'avais pas de texte. Donc d'abord, il fallait créer un lien. Un réel lien avec là. Ça va, ouais, ok, le confinement c'était comment? Je commence à raconter, j'ai quelques blagues sur ma réaction pendant le confinement, le masque, etc. J'ai quelques petits trucs, donc je raconte ça, et on développe, et je fais 2 heures avec eux.
2 heures?
Ouais, 2 heures, première soirée et tout. Et il y avait 2 filles, qui étaient venues à la première soirée, qui sont venues à la deuxième et tout, parce qu'elles ont capté que c'était pas du tout un spectacle classique dans le sens récité, qu'elles auraient pas les mêmes textes et tout. Et donc elles sont revenues. Et ce qui m'a touché le plus, c'était que ce qui fait qu'elles sont revenues, c'est parce qu'il y a un truc que d'ailleurs j'ai pas à développer dans le spectacle. Peut-être ça va revenir, parce que c'est une pensée que j'ai de toute façon sur le groupe. Enfin, j'ai développé tout un truc sur ma vision du groupe. Mais comme ça a évolué en même temps que je le disais aussi, j'ai arrêté de le dire parce que j'étais plus trop d'accord avec moi. Enfin, en tout cas, je trouvais que ça manquait de subtilité à des endroits sur pourquoi le groupe c'est pas bien. En même temps, c'est bien. Tu vois. Bon, et donc elles étaient venues pour ça, parce que ça les a marquées, parce que il y avait cette idée de considérer les gens pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils représentaient. Et pour savoir ce qu'ils sont, il faut prendre un mini temps. Et ça, tu peux pas l'avoir juste en croisant quelqu'un dans la rue. C'est forcément être conscient que tu vas avoir une mécanique qui se met en place quand tu verras quelqu'un. Est-ce que c'est comme ça? C'est pas grave. C'est juste observe-le. Ne te juge pas, observe-le. Mais sinon, prends le temps de regarder les gens dans les yeux quand il y en a. Tu vois, regarde-les et tu verras qui c'est. Faisons appel à notre instinct de base, des fois, quand même, c'est important. Et on l'oublie, ces trucs-là, un peu. Bon, bref. Et du coup, ces 2 filles sont voilées, tu vois. Donc, c'est ça qui me touche le plus, c'est qu'elles me disent merci pour cette phrase sur le groupe, parce que nous-mêmes, on se reconnaît pas forcément dans les groupes auxquels on est censé représenter, quoi. Et j'étais, ah putain, c'est cool. Et je l'ai pas gardé bizarrement, tu vois, mais ça m'a marqué qu'elles reviennent pour réécouter. Et voir comment je pouvais développer cette idée-là, que j'ai effectivement redéveloppée le lendemain. Et après, on en a discuté après le spectacle, toutes les trois. C'était trop cool.
C'est ce soir-là que tu te dis, tiens, ok, je vais parler de mon genre et de mon rapport au genre.
Non, c'est la...
C'est nuit plus tard.
C'est tous les spectacles.
C'est tous les spectacles.
C'est tous les spectacles.
Tu l'as construit petit à petit?
Ouais, ma première, toute première blague, après... Enfin, la première blague télévisuelle que je fais, c'est... on va mettre un truc au clair, après on n'en parle plus. Je suis une fille.
Oui, c'est vrai.
Et j'en fais.
Je rigole.
Et maintenant j'ai un peu honte de cette blague. Mais avec amour, quoi. Avec amour, parce que moi, c'est là où effectivement, quand on me dit j'en jouais, des fois ça me touche un peu. Et là je peux dire que inconsciemment j'en jouais parce que profondément je savais que j'étais pas qu'une fille. Mais que je savais que eux, dans leur codification, j'étais censé être une fille. Du coup. c'était rigolo de faire « Arrête, petit bonhomme !» Tu vois, voilà, il y a tout un truc transphobe que j'avais pas encore... Tu
parles de toi, tu vois.
Non, mais je parle de moi, mais je parle mal de moi. Et c'est vraiment ce que Nanette dit. C'est l'autodérision, se s'humilier pour faire plaire aux autres. C'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là. Et donc, je me pardonne, mais pour le coup, le genre et la question du genre a toujours été présente. Toujours. Monsieur, je crois que vraiment, je le dis dans mon tout premier spectacle SketchUp, je fais une blague dessus, sur le fait qu'on prenne pour un garçon. Je crois que c'est là où je dis le truc des seins. Tu vois, mais comme c'était des trucs qui n'ont pas été forcément retenus dans la tête des gens, je crois que je le redis maintenant aussi encore. Je le raconte, quoi, parce que c'est quelque chose où on me dit... tu sais, il y a un mec qui m'avait... Enfin, qui me disait, t'as un gars. Et je dis, non, je suis une meuf. Et... Parce que j'étais encore dans ces codes binaires. Donc je dis, non, je réponds, je suis une meuf. Et il me fait, non, t'as un gars. Et je dis, mais regarde, j'ai des seins. Il me fait, non, t'es un ancien gros. Et il croyait vraiment que je me foutais de sa gueule. J'étais là, wow, c'est un délire. Et j'en parlais, je crois, au premier spectacle.
Et en même temps, c'est compliqué de lui répondre comme ça de but en blanc. Non, mais moi, je suis non-binaire, tu vois.
Bah, en fait.
Aujourd'hui, ça commence à rentrer. Et justement,
non, non,
parce
que. Si m'avait dit t'es un mec, aujourd'hui, je dirais oui.
Oui.
En fait, c'est juste ça, je me prendrais même pas la tête. La dernière fois, il y a mon couvreur avec. Tu vois, pour le toit, je le salue.
Bonjour.
Il est trop mignon. Il m'a envoyé un message hier quand j'étais à France Inter. C'est super. On adore. J'étais mon couvreur, m'envoie un message. Bon, bref. Et il me dit, je sais pas pourquoi j'ai envie de te masculiniser. Je sais pas pourquoi j'ai envie de... Je dis, bah, parce que je suis un gars aussi. Mmh. Ah, il me fait, ah ouais, d'accord. Il y avait un peu de jugement, mais un peu d'acceptation aussi. Il était, oh, d'accord. Oh, ouais. Écoute, France Inter, je pense qu'il est un peu... Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je justifie plus rien. Et j'explique aux gens, parce que c'est ma façon de vivre, ma fluidité. Plus que ma non-binarité, qui est encore une fois une contestation à une société en place... Mmh. C'est ce que évoque pour moi le mot non-binaire, c'est-à-dire que tu n'es pas binaire.
Oh, puis
ça dit ce que tu
contre.
N'es pas, mais ça dit pas ce que tu es.
Voilà.
Donc du coup, moi je suis fluide, j'ai des nuances dans ma vie. Donc il y a dans les codes sociaux, on parle bien de société, dans les codes sociaux de ce que peut représenter un homme, je suis un homme à plein d'égards et je le suis à des moments très ancrés socialement. Et j'ai des déconstructions en tant qu'homme à faire qui sont terribles.
Ouais.
Parce qu'en plus, comme je ne savais pas tu vois, tout ça de moi-même, là où des gens se sentent vraiment ni homme ni femme. Moi, je me sens homme et femme à des moments. Donc fluide, dans cette idée, me va mieux parce que des fois, je me sens ni homme ni femme et des fois, je me sens homme et femme à des moments, enfin, et des fois en même temps.
Donc c'est terrible parce que tu es obligé là, d'aller t'affronter au code, ou en tout cas aux conneries qu'on vient mettre dans la tête des petits garçons et des hommes.
Oui, parce que j'ai grandi avec mon père et que c'est même les premières fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai écouté parler avec mes frères. Et j'étais là, mais il nous dit des dingueries depuis le début. C'est dingue tout ce qu'il dit. Il dit, surtout, fais jamais l'essai, tu donnes ça, ils prennent ça. T'es là, waouh. Tu sais, il pense que c'est un peu rigolo, un peu séducteur macho et il y voit pas du tout le danger. En fait, il dit quoi. Et j'ai grandi avec ces codes. et voilà, il y a des moments où je suis aussi totalement dans ma féminité sociale et pas énergétique, je parle. Et ça aussi, je dois déconstruire certaines choses, en accepter d'autres aussi. Tu vois. Bon, bref, c'est intéressant tout ça. Mais à aucun moment, je contredis les gens sur ce qu'ils voient.
Oui.
Parce que je pense qu'on est tous le reflet les uns des autres. Je suis un peu ton miroir. Si tu veux me masculiniser, c'est que tu le sens. Si tu veux me féminiser, c'est que tu le sens. Il y a des moments où ça peut me vexer parce que je me sens vraiment totalement dans ma position d'homme et on me ramène à ma position de femme et je me sens pas dans mon énergie. Énergétiquement, je suis pas à qui on parle. Il y a vraiment ce truc de je sais pas à qui tu parles. Tu sais, le mec qui va me tenir la porte, c'est un truc con, hein. Attends, je vais te montrer. Et je suis là, mais t'es. Tu vois, il y a même. En plus, le gars, il est un peu homophobe. Tu vois, il est. Ou quoi, je suis là, il va me toucher. Tu me mets la main dans le dos. Bah, que tu me veux, lui. Il est en train de me. Tu vois, bah, je suis pas bien. Je dis, on va se battre. Il y a des moments, je switch parce que je parle. Tu vois, de. Tu vois, donc je sais pas si ça vient, en plus, me concernant, d'un trouble de l'identité ou si ça vient vraiment d'une identité qui est multiple.
Oui. Alors, et puis il y a une construction sociale aussi derrière. Il y a ce truc de ce qu'on t'a mis dans la tête depuis que t'es toute petite, de qu'est-ce que c'est qu'être un homme, quoi.
Ouais, puis je suis pas trop con. Hein. Moi, j'ai vu ce que les femmes subissaient. J'étais là, bon, moi, je suis un gars aussi. Moi aussi, je veux un jogging, wesh. C'est mieux. Mais rentre tes cheveux, wesh. Attention à toi la soirée. Il y a aussi ça, c'est que je me demande à quel point ça a eu un impact sur ma masculinité.
Et dans la drague.
Renforcée.
Et dans la drague en tant que meuf lesbienne, il y a ouais. aussi des connes, non? Qui jouent
je
comme ça.
Je sais pas, je n'ai jamais rencontré de lesbienne.
Quoi?
Faut que je m'y mette.
Qu'est-ce que tu racontes?
Bah écoute, comme je suis aussi un gars hétéro, ouais. je sors beaucoup avec des filles hétéro.
Ah ok.
Et donc je suis sorti avec deux lesbiennes. Pas sorti même, j'ai rencontré deux lesbiennes.
Ok ok.
Et qui je n'ose pas trop coucher. Parce que comme elles sont lesbiennes, je voudrais pas les importuner. Donc le bon compromis pour moi, c'est les hétéros, tu vois.
Ah putain, je l'ai jamais vu comme ça.
Ouais. Ce qui est un problème. Hein, comme...
tu veux dire...
qu'à un moment donné, elle va le retourner avec un vrai gars, ce qui est transphobe, parce que c'est pas parce que j'ai pas de bite que...
Ouais.
Tu vois, et tout un monde comme ça où je suis perdu, je suis vraiment dans une impasse. Où les gens passent, ouais, c'est sympa cette impasse son, hein, un peu sexy ici, je vais dire, il faut un no escort.
Elle est où la tub? C'est un peu ça, non? Putain. Ouais. Oui, ça doit pas être simple.
Ah, c'est relou. Avec les hétéros, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aller plus dans le monde queer, qui me correspond quand même plus. Mais en fait, c'est vrai que je...
Oui, parce qu'il doit y avoir des meufs ou des mecs qui sont aussi fluides, tu
oui,
vois.
Oui, totalement. Mais c'est juste que je sors pas beaucoup, comme je suis une personne qui sort pas beaucoup d'une manière générale, et encore moins en boîte, quoi. Et c'est quand même dans ce genre d'endroit où on a tendance à faire des rencontres dans les bars et tout.
Tu connais les applis de rencontres, sinon?
Je déteste.
Ah,
je déteste. Je suis pour les rencontres de la vie. Je suis pour
très
la
boomer,
vraie vie.
Très boomer, pour le coup.
Mais je sais que je suis un boomer, c'est terrible. Mais non, ouais, je suis, ça me stresse. Les rencontres et tout, les applis.
Ok.
Bon, après, j'ai essayé une fois quand même. Après, on m'a dit, j'ai rien soignant. J'étais là, non, c'est pas moi, je suis parti.
Oui, c'est un autre problème.
Et après, j'ai fait des applis là, pour les gens connus. J'ai pas sorti avec des gens connus.
Oui, ça, c'est un peu. Il y a une forme d'endogamie un peu relou.
Oh là là. Bah, le communautarisme, quoi.
Marion Séclin, elle m'a raconté qu'elle s'était fait tâche de Tinder en disant vous avez piqué la photo de Marion.
Ah oui, il y en a plein comme ça.
Non, moi, c'est moi.
Ah, ça fait mal.
C'est dur d'être une personne.
C'est très dur. On est isolé dans notre donjon.
Est-ce qu'on peut parler du.
Du spectacle.
Non, mais parce qu'on parle du spectacle.
Ouais, carrément, je crois que t'aimes bien ça.
Non, je trouve ça assez fabuleux aussi que tu décides de porter ce sujet-là.
Ah oui.
Parce que c'est, comme je le disais, je crois vraiment que c'est un sujet qui est très peu connu, en fait. Et que tu décides de venir porter ce sujet-là et de le porter en plus, pas en venant faire des blagues sur la société ou je sais pas quoi, mais en parlant de toi. Parce que tu parles de toi.
Ah oui, totalement.
Je trouve ça assez génial.
Ouais, je me suis pas rendu compte à quel point c'était nouveau et tout, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que j'attends ce mot, que,
oui.
En fait, moi, ça me libère. C'est la première fois que je me sens libérée, tu vois. C'est,
ouais.
Parce qu'on m'a toujours dit, t'es un mec, t'es une meuf, avant même que je sois humoriste et tout. Souvent, il y a eu cette évocation chez moi où je disais, bah, je suis Shirley. Et je savais pas répondre. Je voulais pas répondre fille, je voulais pas répondre garçon. Je suis Shirley. Et à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. Et je suis devenue une lesbienne garçonne.
Ouais. Faut que ça te fait rire.
Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Si je le voyais en spectacle, je rigolerais. Je serais, ah, c'est marrant. Je vois ce que tu veux dire. Mais la vanne n'est pas finie. Mais je rigole à la prémisse. Mais. Bah, parce que tu te crées des codes qui sont acceptés. Un minimum. C'est-à-dire que, tu vois. Tu dis, bon, bah, apparemment, ça, lesbienne, les gens, ils connaissent, ok, mais ça me définit pas totalement, et ça, je m'en rends compte aujourd'hui aussi. Et ils connaissent aussi les lesbiennes pour qu'on puisse les reconnaître dans la société, et puis avec des pics sur la tête. Bon, ça, je peux pas, mais je vais mettre des chemises à carreaux. Et ça fera du bien à ma non-binarité. Mais ça fait pas du bien à ma féminité. Enfin, tu vois, maintenant, bon, c'est en grandissant aussi que tu apprends à te connaître et à vis-à-vis de la société. Et puis, c'est cool que la société. Franchement, je suis vraiment heureux que la société ait avancé avant mes 80 ans, quoi. C'est trop bien, je peux le vivre, ça fait plaisir.
Et que tu puisses non seulement le vivre, mais aussi le porter. Enfin,
ouais.
Pour moi, c'est ça qui est
mais
dingue.
J'ai pas l'impression de le porter, j'ai l'impression de déposer un bagage, moi. C'est ça que je te dis.
Ok.
Tu vois, j'ai l'impression que les gens, eux, vont commencer à porter des trucs. Moi, je leur jette des petits sacs. Je fais, allez hop, j'ai la caisse au petit sac. Dedans, il y a une brique. Très lourde.
Démerdez-vous avec ça.
Ouais. C'est plus mon problème, moi. C'est beau, j'ai trouvé le mot.
Toi, t'as trouvé le mot.
C'est bon, maintenant, je vais pouvoir être. Enfin, j'ai trouvé la fluidité, dans ce mot fluidité, j'ai trouvé quelque chose d'hyper apaisant, mais pour tous les domaines de ma vie. Je suis fluide. Tous les domaines pour le dans mes métiers, tu vois. Là, ouais, je pense à faire de l'immobilier, je suis contente, ça me plaît, de faire des rénovations de maison.
Ok.
Ouais. Là, c'est un truc que ça fait longtemps quand même que je me le dis en vérité. Tu sais, il y a des petits trucs secrets comme ça que t'as et je l'ai fait une fois, je fais, ah, j'aime bien. Oh, j'ai pas mal ça. Je suis fluide, quoi.
Est-ce qu'on parle de ton viol?
Ouais. Vraiment, je viens de le découvrir avec toi. Ah bon? tu sais, tellement je m'attendais pas à cette question. J'étais violé.
Non, mais je sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas dans ta promo. Parce que... mais c'est vrai. Parce que
je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme des promos. Parce que j'imaginais faire tes PMP en disant oui, j'étais violé, venez voir mon spectacle. Ça m'a fait rire d'imaginer toutes les promos comme ça. Bah, il serait temps, oui, qu'on parle de mon viol. Comment veux-tu qu'on vende des billets sinon? Bah, non, en fait, c'est-à-dire que ça dépend des gens. Si t'as envie d'en parler, avec plaisir.
Ah, bah, moi, je veux bien en parler avec toi. C'est...
Avec plaisir, je sais pas si c'est le mot adapté, mais en tout cas, parlons-en. Avec...
Moi, j'ai trouvé ça assez ouf que t'en parles et surtout que tu viennes l'amener de la même façon, en fait, un peu comme un.
Ouais, tu m'as fait, bah, tu vois, je comprends mieux ce que je fais au public maintenant. Ah bon? On y va.
Les gens sont scotchés et surtout, en fait, tu fais. Tu fais quoi? 10 minutes, un quart d'heure dessus?
Ah ouais?
Tu fais. Je sais pas. En fait, il y a beaucoup de blagues. Tu prends beaucoup le temps de faire des blagues.
À ce moment-là, le temps paraît plus long, je crois. Je crois que ça dure 5 minutes.
Ça plombe, peut-être.
Ça, non, on descend tous un peu.
Ça plombe l'ambiance et en même temps. Je trouve ça assez fou. Tu sais que on a fait une interview ensemble en 2015 sur Mademoiselle.
Ouais.
Je l'ai réécouté.
Ouais.
Et t'arrives en disant ok, en fait, ma psy elle est pas là et tout. Je suis content de pouvoir te parler cette semaine et tout machin.
Trop drôle.
Ah merde, attends, tu sais, j'écoute mes.
Je parle vite, mais quand même.
J'écoute mes propres interviews en 1h30, le mec ne se respecte pas.
Mais moi, je suis la seule personne qui peut pas mettre.
Vous allongez sur ce canapé.
Oui, parce qu'il est moelleux, déjà.
Oui.
Parce que, en fait, cette semaine, normalement, je suis censée aller chez ma psy, et elle est pas là. Elle est en vacances. Et donc, ça fait vraiment plaisir de parler avec toi. Je vais te raconter beaucoup de choses.
Ah, ça me
notamment
fait
plaisir. Ce viol que. Non, c'est pas vrai. Pour le coup, j'ai cette chance de ne pas avoir eu ça. Mais. Effectivement, ouais, c'est vrai que là, ma psy n'est pas là cette semaine.
Ah oui, parce que j'allais dire 2015, je suis même pas au courant moi-même de ça.
J'ai écouté ça là, tout à l'heure en venant, je me suis dit, ok, c'était là.
Ah, c'est ouf. Mais en fait, c'est marrant parce que plein de gens me disent, il y a des moments, tu dis des trucs, tu as dit des trucs comme ça, mais t'as pas profondé en intimité, je veux dire. Et en fait, je pense que, je savais sans le savoir. C'est terrible cette mémoire là, elle est ouf.
Ça m'a foutu les.
Ouais,
ça m'a foutu les poils tout à l'heure.
Mais c'est génial parce que tu vois, c'est ça les doublements, donc c'est ça dont je parle. Quelqu'un, c'est déjà. Et ça, c'est ce que j'ai. C'est ce qui me réconforte actuellement dans mon travail de déconstruction, parce que là, pour le coup, c'est un travail de déconstruction forcée entre guillemets, parce que les images me sont venues récemment, quelque part récemment, puisque c'était il y a 3 ans. Truc comme ça. J'ai un problème de temps avec la mémoire, avec le temps. Mais c'est assez récent et ça s'est fait en plein de coups. Et tu vois, c'est terrible parce que là, encore une fois, quand on parle de ce sujet, ma mémoire flanche. D'ailleurs, ça fait partie dans ma setlist du mot que j'oublie à chaque fois.
Okay.
J'oublie à chaque fois de marquer, c'est pédocriminalité sur la setlist. Et après, je trouve que j'ai oublié un truc, non ? C'est quand même, mes potes, ils rigolent, ils font bah oui. Et en fait, j'ai un gros problème de mémoire, je m'en rends compte de plus en plus. Je comprends de plus en plus pourquoi je fume autant.
Le cerveau est
Je tellement... savais pas, moi, pourquoi je fume autant. Moi, je croyais que c'était juste parce que j'étais cool.
C'est pour...
Tu vois ?
C'est pour occuper le...
Pour oublier. En fait, mais du coup, je continue le processus d'oubli. Et maintenant, c'est devenu juste une habitude, hein, c'est vrai, ça, le problème. C'est que à la base, c'était juste cool. J'étais là, oh, la sensation, je pense, j'imagine, il y a 10 ans quand j'ai commencé à fumer, la sensation, ça devait être, oh waouh, c'est génial. Parce qu'il y a pas longtemps, je me disais, mais comment ça se fait que t'en es arrivé là? Parce que t'es pas quelqu'un comme ça. Hein. Donc, je pense qu'il y a une personne qui essaye de vraiment faire en sorte que ça s'arrête, tu vois, et une autre personne qui vit totalement, et que je pensais être totalement moi. Il y a une autre partie de moi qui était là et qui est à côté, tenter l'inverse.
Le cerveau est trop bien fait pour nous protéger,
incroyable.
Quoi.
Incroyable. Et c'est même dans la weed qui m'a fait recouvrir la mémoire, donc c'est marrant.
Ah ouais?
Ouais, j'étais à Los Angeles et j'ai fumé deux bons joints purs.
Alors, attention, si vous allez un jour en Californie, la weed là-bas, j'ai fait un bad trip de ces morts.
C'est sûr. Non, il faut vraiment demander des choses hyper douces parce que ça va très vite, c'est très vite fort. Et je me suis retrouvé à avoir un espèce de défilé d'images qui était tellement violente et tellement incompréhensible, absurde, tu vois, enfin pour moi, Et puis douloureuse, ça je m'en rappelle que c'était absolument directement douloureux. C'était pas genre des images de la bah, qu'est-ce que je non, c'est tout de suite ça te tire les entrailles et tout. Mais c'était tellement violent que j'ai pas cru à ce que j'ai vu. Puis en plus je venais de fumer, donc clairement je me suis dit j'aurais dû fumer. Puis les jours passent quoi. T'es là, il y a des trucs qui restent quand même et qui commencent à être plus du tout un bad trip là. Là je suis réveillé là. Et puis il y avait aussi des choses évidemment qui avaient déjà été enclenchées dans ma réflexion depuis 2-3 ans. En fait, il y a une image qui m'était toujours restée. Et donc en 2015, cette image, quand je te dis, je l'ai en tête, mais je considère pas que c'est un viol. Je considère pas que c'est un viol pour plusieurs raisons. Dont une dont je parle dans le spectacle, mais là je me dis c'est dommage de le raconter comme ça.
Oui.
Mais tu vois, il y a plein de choses qui font que je le considère. Et puis plein de gens, moi j'écoute tout le monde depuis que j'ai 20 ans que je suis à Paris, tous les gens, je leur fais sortir leur viol, tous. Je suis la chamane des viols, je suis là, dis-moi toi. Ça va, Samy, t'es sûr? Allez, raconte-moi ton enfance. C'est bizarre quand même, ce cours de vélo sans sel, tu vois. T'es sûr? Je sortais, je voulais que les gens sortent leur truc. Tu vois. Et j'en ai sorti des. J'en ai fait vomir des gens. Et je me suis jamais dit que. C'est... Mais genre à ce point-là. Et pourtant j'ai fouillé, hein. Mais je fouillais au mauvais endroit. Parce que cette mémoire-là avait été hypnotisée. Mmh. En fait, c'est pour ça que je n'aime pas trop les spectacles d'hypnose et tout. Je trouve que c'est pas un bon spectacle. Enfin, c'est un pouvoir que l'humain, on a avec l'autre humain qui est dangereux et tout. On le fait dans la pub, on le fait dans plein de trucs. On le fait en spectacle vivant aussi, hein, quand on est une star, entre guillemets. Je mets des guillemets. Mais en tout cas, quand on... c'est ça l'hypnose. C'est de faire croire aux autres que t'es plus important et tout ça. Et ou de dire quelque chose aux gens. Enfin, les mots, la pouvoir des mots. Moi, j'ai donc des mots qui m'ont été dits et des. Une domination qui a été mise en place, comme à chaque fois que ça se passe en vérité, où pour moi, quelque chose qui était scellé. Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais même pas le concevoir. Enfin, j'avais oublié. Et j'en souffre encore. Il y a encore 2 jours, tu vois, je me suis encore réveillé avec. En fait, c'est comme des images de guerre, quoi. Ouais. C'est comme tu as fait la guerre, tu es traumatisé. Des fois, tu as des moments de ah putain. Donc, je les vis mieux qu'avant. Je rigole plus avec moi aussi en disant « Ah, c'est relou !» J'étais juste en train de boire un café. Ouais, je pourrais arrêter de mettre de la mort dans ce café. Parce que tu vois bien que c'est pas moi, l'adulte, qui pleure. C'est la personne qui enfin peut dire « Et puis il y avait ça aussi !» Et puis il y avait ça.
La petite Shirley.
Ouais, voilà. Donc il faut l'écouter, il faut être un bon parent pour elle et tout, tu vois. Et des fois, bah, j'oublie que c'est... On se confond. Donc c'est un long travail. C'est pour ça que finalement je réponds à la première question. C'est pour ça que je joue pas beaucoup ce spectacle.
Ouais.
Aussi.
Je m'en doutais un peu.
Faut y aller mollo, quoi. Ouais, faut que je sois douce avec moi. Ça fait partie de ça, quoi. Mais la volonté artistique aussi y a fortement. L'idée de pas répéter le même texte tout le temps.
Ok.
Tu vois.
Pas que juste le trauma, quoi. Non. Appuyer sur le trauma ou le travailler, quoi.
Non, non, non.
T'as fait de MDR ou pas?
En fait, j'ai failli, et j'étais à rendez-vous avec une psy. Et
pour les gens qui savent pas, le MDR, ouais. C'est juste une technique qui a été inventée, je crois, dans les 70s aux États-Unis pour soigner les traumas de les anciens du Vietnam.
Ouais, et en fait, c'est hyper intéressant, ça joue sur le regard.
Le mouvement oculaire, ouais.
Le mouvement oculaire ou le. Louis pour un autre d'autres méthodes et en fait ça te déprogramme un petit peu de certaines mémoires. Bon, j'ai pas tout compris comment ça fonctionne, mais c'est très fort.
En gros, si j'ai bien compris, ça te remet en position ça va travailler le souvenir en fait, ça te remet en position de force dans le souvenir.
Ouais, totalement.
En position de puissance.
J'ai pas pu y aller alors à ce moment-là quand je fais en plus c'est hyper drôle parce que je fais de l'EMDR et puis j'ai vraiment un problème de mémoire de quand quoi. Mais quand j'essaie de faire de l'EMDR, j'ai toujours pas conscientisé ce qui m'arrive.
Ok.
C'est ça qui est ouf. C'est là, je suis en train de me rendre compte maintenant. Je suis là. Ah oui, donc tu vas. Du coup.
Ah oui. Ok. Le cerveau.
Je sais même plus pourquoi. Mais pourquoi Bah, si, je sais pourquoi j'y allais. J'y allais parce que si, parce qu'en fait, on ne les thérapeutes que je voyais avant ne s'axaient que sur une chose parce que je leur donnais qu'une chose. Donc ils s'axaient sur mes parents. C'était pas le truc. Enfin, ça en fait partie, mais c'était vraiment pas le truc essentiel à ce moment-là dans la violence que je pouvais avoir. J'étais quelqu'un d'assez violente. Je le suis toujours quelque part, mais ça se travaille. C'est comme quelqu'un qui fait du karaté et qui doit pas faire des coups partout dans la rue, quoi. Tu vois, c'est là, quoi. Tu vois, on peut pas échanger, je pense, l'histoire et l'expérience. Donc, il faut juste se connaître. Donc, je peux être d'une extrême violence Et du coup, on s'attardait beaucoup sur ma violence et sur d'où ça venait. Et en fait, là, t'es là, ah ouais, non mais c'est beau, j'ai compris maintenant. Bon, bon. Et quand je vais faire de l'EMDR, c'était un peu pour ça. Mais je ne le fais pas parce que mon ex à l'époque me dit, fais gaffe, quand tu fais de l'EMDR, c'est mieux de parler avec la psy avant que vous fassiez les séances, qu'elles connaissent vraiment ce que tu viens y chercher, avoir 2-3 séances de discussion. Et vraiment, je dis, je me fixe sur ce conseil. Je me fixe en disant, faut vraiment qu'on parle et qu'on fasse d'abord que parler, et on verra plus tard. De toute façon, je me sens pas de me laisser aller à un exercice d'hypnose presque, tu vois. Ouais. Donc, je lui dis à la dame, je lui dis, ouais, j'aimerais bien qu'on parle avant, on fasse plusieurs séances, et puis après, on verra pour ça, pour la machine, là, qui fait des trucs bizarres. Elle me dit, d'accord, ok. Et là, dans la même séance, je me retrouve face au truc à faire le truc. Et je peux même pas t'expliquer comment on en vient là. Juste, elle m'a dit, bon, on y va alors? Et je me vois dire oui à contre-cœur.
Ouais.
Je me vois dire, d'accord. Parce que je me dis, mais c'est bizarre, je te l'ai dit au début de la séance. Alors si tu insistes, c'est que tu sais. Ou alors c'est que moi-même, ma mécanique est baisée. Et que je sais pas dire non. Et je me vois ne pas savoir dire non. Et je commence à faire l'exercice et à pleurer de ouf. Parce que ça, elle est contente, ça marche et tout. Elle me fait, à quoi vous pensez là? Je dis, je pense à vous casser la gueule. Et pourquoi vous avez autant de rage? Parce que vous m'avez trahi. Je vous ai demandé de pas le faire, en fait. Je suis jamais revenu, quoi.
Waouh. Wow. Ouais. Et d'un autre côté, elle a appuyé sur un bouton.
Oui, voilà. Du coup, j'ai compris moi-même toute seule. C'était quoi le problème à ce moment-là? J'étais là, ok, je peux pas avoir confiance. C'est dur pour moi d'avoir confiance. En plus, je suis pas sûr qu'une femme pour moi ce soit intéressant. Mini spoil. Mais tu vois, enfin, voilà. Bon, bref, j'ai fui. J'ai fui cette situation qui me paraissait très inconfortable. Mais j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer. Mais là, il y a chez moi encore une fois beaucoup de switch là-dessus où il y a une personne qui veut totalement aller en thérapie et d'autres qui n'ont pas du tout envie d'y aller. Donc vraiment je fais des tours, je fais des mails à des thérapeutes, après j'oublie le rendez-vous, après faut que j'y aille, quoi.
C'est ton chemin. En fait, j'allais t'en parler aussi, c'est que j'ai l'impression que ça fait 5 ans que t'es sur un chemin de conscience de toi.
5 ans, ouais, peut-être, ouais. Ça commence en tout cas, ouais, depuis 5 ans à être de plus en plus clair que j'ai un truc à travailler, que c'est pas les autres qui ont un truc à travailler.
T'as souvenir d'un déclic en fait qui t'a fait prendre conscience de ça?
En fait, j'ai toujours cherché, mais voilà, à force, okay. À force d'avoir mal, quoi. Je crois que mon premier burn-out, ça m'a fait ça. Le premier moment où je vais en HP, là, je pense que je me rends pas compte tout de suite parce que j'enchaîne quand même pas mal de descentes après encore. J'ai pas arrêté la drogue immédiatement.
Ce qui est quand même une bonne chose à un moment donné, tu vois, quand t'es en burn-out, tu vois,
ah ouais, c'est clair.
D'y aller mollo.
Ouais, de pas se... Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas encore dans un truc de oh, j'ai compris la vie et la lumière, tu vois. Ça a été quand même des processus longs et tout, et ça continue, je me sens... franchement, jusqu'à la fin, je me sentirais en mode fais gaffe, genre, tu peux, en tout moment, l'argent, tout, on peut chuter. Il faut être en maîtrise de soi, quoi.
T'es revenu sur l'argent.
Ouais, c'était pour donner le petit running.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais bien aimé parler?
Oh, moi, je suis bien, moi, tout va bien. Moi, je connais les réponses déjà, je pense. Donc, c'est cool. Hein.
C'est la première fois qu'on me fait cette réponse.
non, oui. Parle-moi de ça. Dis-moi des trucs. Non, j'ai pas d'envie particulière. Je suis ravi d'échanger.
C'est cool, merci Charlie. Donc, cool. On peut te suivre sur c'est où le meilleur endroit où on peut te suivre, en fait? Parce que j'ai l'impression que t'avais un peu laissé tomber ton Insta, mais là tu es en train de le reprendre, c'est ça?
Ouais,
t'es un peu on and off.
Bah c'est ça, en fait, c'est que j'ai trop de trucs à gérer intimement.
Ok.
Tout est fragile. Je suis là, des fois. Et puis je pense vraiment, il y a des gens qui sont venus me voir après le spectacle en me disant, mais vous avez pensé au TDI? Tu vois, parce que je parle, j'ai même le vocabulaire et tout ça.
TDI, le trouble de l'identité.
Dissociatif. Identité. J'ai tendance à dire « on » quand je fais des choses. J'essaie de ne pas le faire, parce que je pense que si trouble dissociatif de l'identité il y a, je pense qu'on peut se réparer. Là où j'entends qu'on ne peut pas se réparer dans les diagnostics faits actuellement. Je pense que c'est un travail d'alignement et de compréhension de ces multiples identités pour... que la cohabitation soit si fluide qu'elle soit fluide, quoi.
Et tu sais, c'est marrant que tu me parles de dire on, en fait, c'est que bon, j'ai un podcast Histoire de mecs, marrant, parce que on parle de masculinité avec ces mecs-là, et en fait, très souvent, les mecs démarrent en parlant pas d'eux, mais en parlant de on, Mais c'est plutôt pour éviter de parler d'eux.
Ah oui.
Parce qu'en fait, parler.
C'est pour se cacher. Ouais.
Voilà.
Mmh.
Et,
ouais, totalement.
Et souvent, je les reprends en leur disant, en fait, quand tu me dis on, tu parles de toi ou tu parles de.
Non, c'est que moi, j'ai la sensation intime de pas être toute seule à faire des choses. Mais je parle pas d'identité extérieure.
Ouais.
On est bien d'accord. J'ai l'impression d'être plusieurs parfois dans la force que je peux avoir pour même porter des meubles. Vous me verriez faire. Et je filme beaucoup de choses. Je suis en train de faire le deuxième documentaire sur le stand-up français. Je vais y raconter un peu plus mon parcours. Il y aura plus d'intimité comme un peu le spectacle. Et je raconterai ce genre de choses. Mais tu les vois en image en fait, surtout. Tu dis, bah, t'es sûr que t'as porté ça toute seule? T'es là, bah, j'ai pas fait de montage, y a pas d'effet spéciaux là. Il y a juste, je sais pas qui c'est. La nuit à 4h du matin qui porte. Des trucs sur le rooftop du jardin sauvage en faisant parce que j'ai pas envie d'attendre qu'il y ait des gens qui arrivent demain.
Ouais.
Bon, quand t'as la volonté, des fois, c'est la capacité que tu découvres. En tout cas, l'idée du on, c'est pas pour me cacher. Je me sens pas caché, je me sens là. Mais ce qui est caché, c'est certaines mémoires. Ça, c'est ce que je sens caché chez moi. Ça, c'est vraiment perturbant. C'est hyper perturbant. C'est très énervant. Ça me mettrait en colère. C'est chiant, quoi, de pas pouvoir connaître tout ce qu'il y a dans ton capot. T'es là, aïe, 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 c'est. Sensation est pénible. Et puis, j'ai rencontré des gens en tournée, une association comme ça pour les femmes victimes de violences, mais aussi les enfants. Donc, elle a les deux branches, et puis, donc, elle-même a subi des violences enfants, et elle m'a dit à mon spectacle, mais vous savez, là, ça fait 2 ans que vous avez recouvert la mémoire, il va y avoir encore des flashs et tout, j'étais pourquoi tu m'as dit ça, c'est pas gentil, ça m'a un peu énervé, même on est tous fait un peu pareil, différemment, on peut peut-être pas réagir pareil, j'avais peur quoi, ça fait peur, parce que vraiment c'est une sensation très désagréable, tu sais pas quand ça vient, il y a des moments qui peuvent arriver, malheureusement des moments intimes, la sexualité, parce que ça te rappelle quelque chose, t'es un mécanique, c'est terrible, donc tu sais pas quand ça peut venir, ça peut être aussi un trigger, ça peut être un moment, quelqu'un qui dit quelque chose, pas agréable, un regard particulier, un trait de la peau de quelqu'un qui te rappelle quelque chose, ça m'est déjà arrivé, moi, de voir des traits de visage où t'es là, tu vois. Et ça, c'était les débuts, quand j'ai recouvert la mémoire. J'ai pu savoir pourquoi cette personne, j'ai vraiment vu la personne, en fait, j'ai changé le visage de la personne.
Okay.
Donc j'étais là, bon, bah, clairement, tes lèvres ne me plaisent pas, tu vois. Un peu pincé les lèvres d'une certaine façon, et j'étais là, voilà.
Oui.
Et tu peux pas le prévoir, en fait, la personne non plus, la pauvre personne que je connaissais depuis très longtemps, tu vois. Ce jour-là, j'ai vu autre chose.
Waouh.
Donc tout ça, c'est épuisant pour le cerveau. Très épuisant, mais ça va, parce qu'en fait, je suis contente parce que ça me libère quand même. Tu vois, ça, c'est lourd parce que bah, ça fait mal, c'est comme si on retirait une épée, ça fait mal. Ça fait longtemps qu'elle était là, elle était quand même bien rouillée. Tout le temps, ça fait mal. Donc j'ai le tétanos, quoi. C'est ça que je veux dire.
Et le spectacle t'aide à ça?
Oui, totalement. Mm. Il aide beaucoup de gens aussi, c'est trop bien. Mm. J'ai beaucoup, beaucoup de retours de gens qui sont assez ouf, mais pas que sur ce sujet, parce qu'en fait, comme je libère la parole sur plein de sujets quant au fait qu'ils sont cachés, alors qu'on est tous empreints de ces sujets-là, parce que ce qui m'arrive de façon violente sur un truc qui paraît violent pour la société, enfin, c'est violent. Hein. La vérité, pour moi, ce qui est le plus violent, c'est pas l'acte, même s'il est violent, et que je le réprimande au plus haut point. C'est la mémoire qui revient, c'est l'effet boomerang. Puis l'acte ensuite. C'est ça dont elle me parlait, cette fille à Bruxelles, en me disant, en fait, ça va revenir, parce que là, c'est une première couche de compréhension. Mais j'avais pas mal pour ce qui m'est arrivé encore. J'avais mal pour les horreurs que je venais de voir, parce que j'aime pas les films d'horreur en plus, donc vraiment, c'est pas sympa comme image. Mais j'étais encore dans la dissociation, je ne me voyais que d'extérieur. Donc c'était même pas moi pour moi, c'est une petite fille qui me ressemblait beaucoup, quoi. Mais j'arrivais pas à me dire, tiens, c'était très bizarre. T'es là, oui, c'est moi, mais c'est pas moi, t'étais pas, tu vois, c'est le futuroscope, quoi, t'es là.
Futuroscope.
Tu vois, le train, il arrive vraiment ou pas, là? Oh là là, et voilà, putain.
Très bonne vanne, ça, le futuroscope. Je sais pas si c'est écrit ou pas,
non,
mais
pas du tout.
Garde-la.
Mais j'ai cru, ouais, tu vois, écrit en live. Et et ben voilà, encore les trucs de mémoire. La fatigue.
Non, tu disais que c'était compliqué pour toi et qu'il y avait la couche d'après. Pour l'instant, c'est que la mémoire qui te revient, quoi.
Ouais, c'est voilà. Donc en fait, t'as les effets qui se coulent de après, tu revis des choses avec des nouvelles portes en plus qui s'ouvrent. En fait, c'est comme un scénario à plusieurs étapes, comme si le film il chargeait mal. Ça faisait... Des fois, ça fait un défilé rapide. T'es là, non, j'ai vu la fin. Tu en reviens au début. C'est très bizarre. Donc ça, c'est très perturbant de pas savoir ce que ton cerveau, machin, et on est tous empreints de 1000 traumatismes, on est traumatisé par 1000 choses, des mini-agressions, des mini-traumatismes tout le temps, partout, et donc on sait pas ce qu'on sait vraiment, quoi, tu vois. Le cerveau, il nous dit pas tout, et il filtre, et il prend l'angle qui lui va le mieux au moment donné, qui... Voilà. Ça m'a épuisé.
Bah, merci en tout cas.
Pardon, juste la phrase là, j'étais là, ouh, ça brûle, t'as plus ma tête là.
Non, mais merci, t'as beaucoup parlé. Merci d'avoir partagé tout ça.
Bah, ça me fait du bien aussi. Hein.
C'est super.
Trop, c'est trop bien.
Et puis bah, peut-être que tu découvriras dans 5-6 ans que tu disais un truc que t'avais pas capté.
Il y a des chances, ouais.
Putain, c'est quand même ouf. Merci en tout cas, rendez-vous donc le 12 juin.
Et on va rire. Hein.
Mais c'est, en plus, c'est pour ça que je te dis que c'est pour moi un spectacle fabuleux. C'est que tu viens amener des sujets vraiment difficiles et que t'en fais des vraies blagues. Et qu'en fait, au-delà du sujet, du fait d'aller creuser et tout... Je trouve que t'es aussi au top dans l'expression de ton talent d'humoriste, tu vois, dans ta façon de gérer le rythme, dans ta façon de gérer les apartés, dans ta façon de gérer les gens qui sont autour de toi. Je me souviens qu'il y avait un gamin là quand je suis allé quand j'étais là et que t'as des vannes qui fusent, que t'es capable de repérer le gamin quand t'as une vanne qui parle un peu trop de cul en disant tiens bim je reviens dessus et tout. T'as cette acuité là qui j'imagine après qui revient parce que juste t'as 15 ans d'expérience.
Ouais, Comedy Club. Ça aide bien. Ouais, c'est trop cool.
De scène, quoi.
Ça, c'est vrai, ça je m'éclate avec ça, avec cette aisance-là. Ça, c'est trop bien. Et du coup, ce qui me permet d'être un peu plus sur le propos et moins sur mon apparence et sur tout ça, sur ce que les gens voient de moi et un lâcher-prise. Je pense que, bah, tu sais, je parlais avec un mec qui a fait des stages de clown et qui disait, en fait, on trouve son clown en 7-8 ans. Et je dis, ah, je comprends pourquoi aussi en stand-up on met du temps. C'est ça, le clown. C'est le fait qu'on n'est plus en train de se regarder jouer et qu'on laisse les gens nous regarder tel qu'ils ont envie de nous regarder. Et d'ailleurs, je le vois dans les photos, je fais ah oui, effectivement, vous pouvez rien à foutre de ce que. Tu vois, je suis pas en train de faire la belle gosse.
Ouais.
Je suis en train de vous parler, quoi. Trop bien. Je parle d'intimité, mais ça m'apprend. Le but, c'est que je parle beaucoup, beaucoup de mon intimité pour donner l'exemple sur le fait de regarder, t'as vu, ça fait rien de dire ça. Et au début, ça fait peur, j'avoue. Ça fait peur de prendre le micro. Et t'es pas obligé de prendre un micro, tu peux le faire juste dans ton intimité avec tes proches, avec tes amis, avec toi-même. Fais-le, tu vois, c'est cool. Et c'est pour ça que je reçois plein de messages derrière maintenant, c'est que les gens disent « Ah, tu l'as fait, je peux le faire. Si toi tu l'as fait, moi aussi je peux parler, du coup. » Et du coup, il y a des gens qui se révèlent des choses entre amis, en famille, sur la psychiatrie beaucoup. Parce qu'en fait, finalement, tout ça, tout ce qui en découle, c'est la psychiatrie humaine. Des histoires de ouf, hein. Des gens qui, des secrets de famille qui sont sortis avec ce spectacle.
Bien sûr.
Je trouvais là, ah, trop bien. Magnifique.
Mais c'est à ça que tu sers en tant qu'artiste.
Magnifique.
Tu vois.
Soignons. Magnifique. Ah, enfin mon nom de famille, je le kiffe. Soignons-nous les frères.
Putain, j'avais jamais fait le franchement. Fabuleux.
C'est trop bien.
Merci Shirley.
Merci.
C'était
Fab,
super.
Trop bien.
Oh là là, quelle joie.
Trop cool.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.